Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, cinquième et dernier épisode de notre semaine consacrée à l'actualité du pirate. Aujourd'hui, les films de pirates avec Christian Viviani. On a vu tout au long de cette semaine à quel point la figure du pirate est aussi ancienne que l'humanité elle-même, mais qu'elle continue de parler à notre temps. Cette actualité a peut-être probablement quelque chose à voir avec le cinéma. Le pirate a atteint, en effet, grâce à lui, le statut de véritable mythe. Et comme tout mythe, il permet à toutes les époques de s'y projeter et de s'y retrouver. C'est pourquoi il fallait terminer cette semaine en compagnie d'un spécialiste du cinéma, Christian Viviani, qui est coordinateur de la revue Positif et professeur émérite d'histoire du cinéma. Bonsoir Christian Viviani.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, les films de pirates, alors je pense que tous les auditeurs ont un film en tête, peut-être un film différent. À quand remonte le premier film de pirates ?
C'est assez difficile à dater. Je ne crois pas qu'on ait répertorié le premier film de pirates. Mais disons qu'on commence à voir les situations qui vont devenir familières, les personnages qui vont devenir familiers dans les années 20.
Et qui commence à se stabiliser. Un genre se définit.
Oui.
Et qu'est-ce qui caractérise ce genre ?
Un décor, la mer. Un personnage charismatique qui a toutes les caractéristiques à la fois de la canaille et du gentleman.
Les deux en même temps.
Les deux en même temps, absolument. Et grosso modo, c'est un avatar du film d'aventure historique. Et donc, on retrouve des caractéristiques des grandes films d'aventure historique, type Robin des Bois, Cartouche, Zorro, etc. Celui qui prend aux riches pour donner aux pauvres.
Oui, mais alors, il y a un caractère nouveau et absolument essentiel qui est la mer. C'est-à-dire cet élément atemporel, cet élément qui est universalisable. Parce que la mer, elle n'a pas d'histoire, c'est ce qui la caractérise d'ailleurs. Elle n'a pas d'histoire, elle est uniforme, elle est parfois dangereuse, elle permet de rejoindre un continent d'un autre, elle nous permet de rejoindre l'imaginaire aussi, de rejoindre les îles. Donc, est-ce que c'est pas une force, Christian Viviani, est-ce que c'est pas une force du film de pirates par rapport au film d'aventure et peut-être aussi par rapport au western que d'être déshistoricisé, même si elle fait des références à des épisodes historiques.
C'est certain, il y a un grand pouvoir imaginaire dans ces grandes étendues d'eau qui servent de toile de fond au film de pirates. Parce que ça suggère d'autres rives, d'autres horizons, un ailleurs, une reconstruction, alors que Robin des Bois reste dans son décor. Ce qu'il change, il le change à l'intérieur d'un décor qui préexiste, il ne le détruit pas d'ailleurs. Et là, on va vers l'inconnu ou vers la construction complète.
Alors, on va revenir sur cette idée de reconstruction qu'on a déjà vue d'ailleurs à propos du protestantisme, mais un mot encore parce que c'est pour moi une clé majeure, c'est-à-dire que l'élément infini de la mer va contraster avec un huis clos. Et un huis clos extrêmement confiné, c'est-à-dire ce qui se passe sur un bateau, c'est la promiscuité et c'est cette idée de qu'on va avoir une sorte de condensé de société, de petite société qui recommence tout à zéro.
Oui, il y a cet aspect-là, mais pas vraiment de huis clos. Il ne faut pas oublier qu'un des rites du film de pirate, c'est l'escale, c'est la halte. Et donc, on échange soit avec d'autres pirates, c'est la scène à faire de l'île de la Tortue, oui. Où se rencontrent les pirates venus des quatre coins du monde, ou bien il y a les haltes qui vous font rencontrer les personnages investi d'autorité, les différents gouverneurs, vice-rois et autres, avec lesquels il y a en général un conflit.
Et puis parfois les femmes.
Et puis parfois des femmes.
Alors, on va
même
revenir...
assez souvent.
Oui, voilà. On va revenir sur le personnage féminin, mais c'est souvent ce rivage, c'est souvent une île. Une île, c'est-à-dire, là aussi, une portion de terre entourée d'eau, cet imaginaire de l'île qu'on va retrouver, d'ailleurs, qui est très contemporain. C'est à la fois le paradis fiscal, c'est le point perdu. C'est dans le fond, c'est un immense bateau en terre ferme entouré d'eau.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je crois que le huis clos total n'est pas possible parce que le microcosme ne serait pas complet. Ces haltes successives, ces escales dans l'île permettent la confrontation avec d'autres idéologies, d'autres figures humaines. Et là, effectivement, à partir de là, on peut parler effectivement d'un microcosme.
Alors, qui hésite, d'autres figures humaines avec lesquelles le pirate hésite entre l'échange ou la prédation ? Il se comporte comme un prédateur, c'est quand même sa raison d'être, j'allais dire, parce qu'il est pirate. On verra ensuite la figure du corsaire, cette conversion possible, mais c'est aussi l'échange, la prise, Christian Viviani.
Oui, l'échange, moi, je ne le vois pas vraiment, Antoine Grappon. Hein.
Mais l'échange sur l'île, c'est-à-dire l'échange sur terre ferme. Sur mer, non, il n'y a pas d'échange.
Non, et je ne sais pas ce que vous aviez à l'esprit quand vous parliez d'échange. Est-ce que c'est un échange avec l'adversaire, avec l'ennemi ? Je ne pense pas. Une des caractéristiques du film de pirate, c'est que l'ennemi reste l'ennemi. La seule personne du bord adverse qui change de bord, c'est le personnage féminin, qui, en général, appartient au domaine de l'autorité ou au domaine de l'aristocratie, qui est très souvent antagoniste du personnage principal, qui, au début, le refuse, qui, peut-être même, va rentrer en contact avec lui pour la première fois au cours d'un enlèvement. Elle est peut-être séquestrée, elle est peut-être enlevée. Et peu à peu, va se laisser séduire, à la fois par la personne et par ses idées, et va basculer de l'autre côté. Est intéressant donc que ce soit un personnage féminin qui est évidemment promesse d'un avenir, promesse d'une société qui se structure, mais elle renonce aussi à son environnement social, voire à son environnement familial.
Mais ce qui montre en même temps la force de séduction des idées pirates. Parce que ça nous amène à la figure du capitaine, à la figure maîtresse, bien sûr, qui est celle du pirate, qui est le chef pirate. Parce que à l'intérieur de cette société, on va y revenir dans un instant, c'est une société qui est très égalitaire, en même temps, avec une hiérarchie unique.
Spontanée.
Spontanée, c'est-à-dire
un des films qui est véritablement le coup d'envoi du grand cycle des films de pirates, c'est en 1935, Captain Blood, de Michael Curtis avec Errol Flynn. Là, on trouve des caractéristiques tout à fait intéressantes. Blood est un médecin qui est chassé parce qu'il s'oppose au roi Jacques d'Angleterre.
Donc pour une cause juste.
Pour une cause juste. Il est envoyé aux galères. Il débarque dans une île qui est sous domination britannique. Il va séduire la nièce du gouverneur.
Du parti opposé.
Du parti opposé, bien entendu. Et en s'opposant, pour s'opposer aux autorités, il va libérer ses compagnons de galère et ils vont prendre possession d'un navire. Et c'est spontanément qu'il va devenir capitaine. Les capitaines un peu tyranniques, un peu pervers que l'on va trouver vers la fin du cycle, en général, le capitaine est choisi par ses hommes.
Oui, c'est-à-dire que là, on a vraiment tout, quoi, se met en place, se mettent en place les différents éléments de l'imaginaire pirate. Le pirate ne commence jamais, il pille le pilleur, les pirates. Non. Les galions. Il s'oppose à l'autorité, il oui. s'oppose au pouvoir. Il est expulsé pour une cause juste oui. de sa hiérarchie. Il libère les hommes. Et donc, il y a cette fascination pour la liberté qui passe paradoxalement par une autorité de fer lorsqu'on est à bord.
Oui. Et l'autorité... Je ne sais pas si c'est vraiment une autorité de fer. Là aussi, si on compare avec des films qui sont à la marge du genre, ce sont toujours des aventures maritimes, mais pas tout à fait des films de pirates. Je pense à des films comme les Révoltés du Bounty, par exemple, où la figure d'autorité est justement le capitaine.
Oui, mais qui justifie la révolte.
Qui justifie la révolte.
Et, autre grand thème,
voilà,
pirate.
Et dans dans les films de pirates, on ne le voit pas, ça. Il est compréhensif. Alors que ce qui caractérise le capitaine Bligh dans les Révoltés des Bounty, c'est qu'il ne comprend pas ces hommes, qu'il refuse tout dialogue avec ces hommes, etc.
Bien sûr. Et donc, là encore, une sorte de scène politique qui va se jouer à huis clos, le représentant, le capitaine étant le représentant du roi, le représentant de l'autorité, celui qui a un pouvoir absolu, celui qui a un pouvoir qui ne procède pas d'un pacte initial qui est très important dans les films de pirates. Et alors, le capitaine n'a pas choisi d'être pirate, souvent. Il n'a pas choisi.
Non, bien sûr. Il l'est par nécessité ou à cause des événements. Un point important à mentionner, c'est que ce film dont je viens de parler, ce film fondateur qui est Captain Blood, a été réalisé en 1935. C'est-à-dire que Roosevelt avait été élu 2 ans plus tôt. Donc on est en plein dans la nécessité de faire du New Deal, de la nouvelle donne, un mythe aux dimensions nationales. Et le film est produit par la Warner Brothers, qui est le seul studio démocrate. À Hollywood, les studios votaient républicains. Et soutenaient les candidats républicains, c'était...
Majoritairement.
Ah oui,
tous sauf un...
Absolument, sauf la Warner, qui avait la réputation d'être un studio de gauche. Donc, ça naît là-dedans. Dans un studio qui a l'habitude de mettre en scène des drames sociaux, des films de gangsters. Et donc, effectivement, qui est complètement en phase avec l'idéologie de la nouvelle donne, du New Deal. Donc, le Capitaine Blood, à qui il est donné une certaine légitimité au départ par le fait qu'il est médecin, il défend une noble cause, il soigne... Même ses adversaires, d'ailleurs, à un certain moment de l'histoire.
Pirate au grand cœur.
Oui, mais il est aussi l'homme providentiel. Il est aussi l'homme de la nouvelle donne, en fait. Donc, c'est une parabole tout à fait transparente sur ce qui se passe aux États-Unis à l'époque.
Une sorte de figure de Roosevelt, finalement.
Absolument, oui, oui, oui. Absolument.
Alors, il y a un autre film qui va avoir une importance déterminante dans un autre contexte. On est toujours sous l'ère démocrate, toujours sous Roosevelt, c'est L'Aigle des Mers.
Oui, où c'est le même acteur qui va reprendre le rôle du pirate. Nous sommes en 1940, et là la cause est différente, c'est que la guerre vient d'éclater en Europe. Donc, Roosevelt, alors... que son entourage est extrêmement réticent, que le peuple américain n'est peut-être pas prêt d'aller une autre fois à l'étranger se battre pour les autres. Roosevelt, lui, est persuadé qu'il faut intervenir en Europe. Il en est persuadé très très tôt. Et il va s'appuyer encore une fois sur son studio ami, le studio Warner Brothers, et ce film est exemplaire. Hein. D'ailleurs, il avait reçu l'assentiment de Churchill.
Il connaît un immense succès.
Exactement. Et très, très beau succès. Et donc, Errol Flynn, là, est un pirate, si l'on peut dire, qui est engagé par Élisabeth d'Angleterre. Élisabeth Première, entendait Churchill, hein, clairement, pour défendre l'Angleterre, entendait la démocratie, face à l'armada espagnole, entendait les puissances de l'axe. Ouais,
c'est ça. Donc la métaphore est transparente.
Absolument transparente, et d'ailleurs on reconnaît des acteurs qui dans d'autres contextes pourront jouer des traîtres, des nazis, des sympathisants nazis dans les films de propagande, etc.
Et donc et l'intrigue de l'Aigle des Mers.
Ah, une fois donné ce point de départ, c'est une intrigue assez assez classique en fait. Hein. Il y a plusieurs scènes d'action, il y a énormément de scènes d'action qui sont bâties sur un principe de crescendo qui était une des caractéristiques du metteur en scène Curtis, qui était très très habile dans le montage et dans les cadrages pour orchestrer ces moments d'élan très très fort. Et donc ce personnage va mener à bien sa mission. Il y a évidemment il y a un traître et il y a un méchant. Oui. Sont pas les mêmes. Hein. Le méchant, il est identifié méchant et le traître, il louvoie entre les deux. Hein. Et puis nous avons une jolie jeune femme. Qui est la nièce d'un potentat espagnol qui, évidemment, va passer de l'autre côté.
Voilà. Et ce film marque peut-être l'apogée d'une première génération de films de pirates, Christian Viviani.
Non, on peut pas dire ça, parce qu'il est encore suivi par pas mal de films de pirates, je dirais, tant que la guerre n'est pas finie, il va avoir d'autres films qui
vont s'accumuler
probablement
pour toujours au soutien de la même cause.
Oui, probablement pour tenir le même discours. Ça c'est l'âge d'or du film de pirates. Errol Flynn va parfois être remplacé dans un autre studio par un autre acteur qui est Aaron Power. Flynn, qui est d'origine australienne, avec sa fine moustache, un côté très gentleman anglais, alors que Power, qui est d'origine irlandaise, a lui un physique paradoxalement plus typé, plus méditerranéen. Cheveux très très noirs, œil sombre. Les films de pirates avec Flynn sont en noir et blanc, alors que Power va être une star du Technicolor.
Mais comment expliquez-nous comment Christian Viviani, comment Errol Flynn, qui est dans le fond un gentleman, qui est personnage distingué, va pouvoir occuper ce rôle du capitaine, du pirate, qui est un rôle très masculin, surmasculin, j'allais dire. C'est-à-dire, c'est un homme puissant, c'est un homme qui est brave, qui a affronté au péril de sa vie beaucoup de tempêtes et beaucoup d'avanies. C'est un rôle très particulier dans le cinéma.
Oui, mais c'est un gentleman. C'est-à-dire que
il est toujours un gentleman.
Il est médecin ou il est missionné par la reine. Et donc ça, c'est quelque chose dont il reste marqué. Donc il a une certaine classe, des manières. Ce qui est piquant entre nous, soit dit, c'est que il y a eu plusieurs biographies à scandale d'Errol Flynn, qui était un personnage assez spécial.
C'est complexe.
Et il n'est pas impossible qu'il ait eu, lui, des sympathies nazies. Mais néanmoins, c'est pas l'image qu'il donne à l'écran. Alors, Power, lui, par contre, impose une érotisation beaucoup plus forte, plus charnel, en fait. Dans La fine moustache et l'élégance de Flynn, il y a quelque chose d'un peu asexué. Bien que la réputation off-screen de Flynn était plutôt
n'était pas sexuée,
bariolée. Oui, oui, oui. mais Power, lui, va imposer à l'écran une image beaucoup plus sensuelle. Hein. Il va oser des vêtements où on va lui imposer des vêtements qu'on ne pense jamais à imposer à Errol Flynn, hein, c'est-à-dire la fameuse boucle d'oreille oui. unique
qui
suggère tout à coup une touche féminine oui. dans un personnage virilisé.
Le bandana.
Ça, c'est voilà, le bandana. Il est souvent torse nu. Il y a quelque chose de beaucoup plus érotisé chez Flynn. La couleur est dans aussi.
Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec vous, Christian Viviani, sur le film de pirates. Et vous avez choisi de nous faire écouter cette musique absolument magnifique, triomphante, de L'Aigle des mers. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette musique ?
Alors, la musique de L'Aigle des mers a été composée par Eric Wolfgang Korngold. Vous connaissez ce musicien, Antoine Garapon.
Ça faisait partie des musiciens juifs qui avaient quitté l'Allemagne en 1933.
Exactement. C'était un élève de Mahler, entre autres. C'était un compositeur de concerts, de symphonies, d'opéra, un très très bel opéra qui s'appelle La Ville Morte, qui a commencé sa carrière cinématographique. Il est parti aux États-Unis avec le grand metteur en scène de théâtre allemand. Chassé d'Allemagne parce que juif, qui était Max Reinhardt. Mmh. Il était le compositeur de Max Reinhardt. Et il a commencé sa carrière cinématographique avec Captain Blood.
Ah oui, donc là aussi, il a aidé les films de pirates.
Il commence en même temps que se mettent en place les clichés du film.
À un moment capital, donc pour le cinéma en général, pour l'histoire du monde oui. également, et pour oui. Le film de pirates.
Oui.
Et alors, on parlait avant d'écouter cette musique de cette image de la puissance sexuelle, de l'ambiguïté sexuelle aussi un petit peu du chef. Du capitaine pirate, Christian Viviani.
Oui, 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 oui. Que l'on retrouve aussi, mais alors parfois de manière beaucoup plus caricaturale, dans le personnage du méchant, qui est souvent caractérisé par un côté efféminé, mais qui est, lui, véritablement...
C'est ça, assumé, qui n'est pas...
Assumé et être fait pour s'opposer à la virilité du personnage.
Parce que pour le personnage du pirate, il est tellement viril, pourrait-on dire, qu'il peut supporter des attributs féminins comme l'anneau ou comme le bandana.
Exactement.
Alors, le personnage féminin, alors parlons-en, parce que c'est aussi un personnage clé dans le film de pirate. Cette femme, il y a parfois d'ailleurs des femmes pirates.
Alors, il y a parfois des femmes pirates. Il y en a relativement peu. Hein. Oui. Le cliché, c'est donc la belle qui appartient au parti opposé. Ouais. Et face à Errol Flynn, par exemple, c'était toujours Olivia de Havilland, ouais, qui est toujours près de nous, ah, oui, Paris, à Paris, à 102 ans, lui dit bonjour.
Oui, bonjour, très bien. Voilà,
dans Capitaine Blood, dans L'Aigle des Mers. La première rencontre entre Flynn et Olivia de Havilland dans Capitaine Blood est assez intéressante dans la manière où elle est filmée, parce que il y a un très léger effet de plongée et de contre-plongée, c'est-à-dire qu'elle est valorisée parce qu'elle est vue d'en bas. Elle domine, parce qu'elle fait partie évidemment de la classe dominante, de la classe aristocratique, alors que lui subit.
En contre-plongée.
Et d'ailleurs, la logique de la scène, c'est que très très vite, elle va littéralement acquérir comme esclave cet homme qui, après, deviendra son amoureux.
Toujours cette idée de renversement des rôles.
Voilà. Et dans d'autres cas, la belle aristocrate, elle est un butin ou un otage. Elle est séquestrée et c'est au contact des pirates et du pirate tout particulièrement qu'elle va être touchée par le personnage, le physique du personnage, mais aussi par les idées du personnage. Il est classique qu'elle bascule de l'autre côté.
Oui. Alors, le personnage, on en parle toujours comme le capitaine, il est entouré des pirates, de ces hommes dans lesquels, historiquement, on sait qu'il y avait des rôles très précis à bord. Est-ce qu'il y a des canons, il y a des rôles canoniques parmi les pirates, Christian Viviani?
Les rôles reprennent une typologie hollywoodienne classique que l'on peut retrouver aussi bien dans le western ou dans les films d'aventure en général. Hein. C'est-à-dire, il y a le grand gaillard un peu fruste, il y a le petit bonhomme drôle, il y a celui qui navigue entre les deux, qui sera peut-être un traître, etc. C'est une typologie tout à fait classique, d'ailleurs, qui est reprise avec une certaine ironie dans le Peter Pan d'abord dans la pièce de James Barry et puis dans
la
production
pleutre,
Disney. Vous avez le Capitaine Crochet et puis vous avez Monsieur Mouche à côté qui est littéralement la mouche du coche. Quoi.
C'est ça, voilà. Voilà. Vous considérez que c'est un film de pirate, Peter Pan, pour enfants?
Non, c'est pas un film de pirate, mais c'est un film qui emprunte beaucoup au film de pirate.
C'est ça. Hein. Parce que il y a quand même quelque chose d'assez enfantin dans les, même s'il y a un message politique, mais c'est un peu l'équivalent des films de Cap et d'Épée. C'est-à-dire que c'est très, très épique, en réalité.
Oui.
Ce qui va d'ailleurs avec l'élément de l'eau et l'élément de la traversée.
Oui. C'est-à-dire qu'au départ, la grande matrice générique, c'est le film d'aventure, qui après se décline en film de pirates, film de Cap et d'Épée.
Voilà. Mais alors, il y a une nouvelle génération qui arrive avec Pirates des Caraïbes. Plus tard, dans les années 2000, je crois.
Ah oui, là, vous faites un grand saut.
Ah oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre deux?
Oh, mais il se passe plein de choses, Garapon.
Alors.
C'est-à-dire que le genre s'essouffle à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Parce que peut-être qu'il manque ce moteur qui était la guerre, qui était le moteur américain.
Oui, et puis il y a même un repli du public américain sur des sujets plus intimes, plus graves, qui sont favorisés d'ailleurs, là aussi ça n'est pas une surprise, par l'avènement de la télévision. en fait.
Qui change le style cinématographique?
C'est-à-dire que devant le petit écran, oui, on a des sujets plus intimes. Oui. Les gens vont moins au cinéma. Et la thématique même du cinéma change. On a beaucoup de films qui racontent ce qui arrive aux soldats qui reviennent de la guerre. L'aspect triomphaliste ou va-t-en-guerre n'a plus tout à fait sa place. Il faudra peut-être attendre des conflits bien précis, comme la guerre en Corée, pour qu'il y ait une petite production, relativement petite, qui va reprendre...
Puis bien sûr, le Vietnam ensuite, assez ambigu, assez honteux.
Il y a assez peu de films pro-guerre du Vietnam.
Bien sûr, c'est ce que je dis, bien sûr.
Il n'y en a pas beaucoup. Donc, on en fait encore un petit peu. Ce sont soit des parodies, soit des films à petit budget. Et la particularité de ces films à petit budget, c'est que le personnage du chef des pirates, séduisant, gentleman et tout ce qu'on voudra, a tendance à disparaître. Probablement aussi parce que Tyrone Power et Rolf Flynn prennent un peu de bidoche et ne peuvent plus jouer ce genre de rôle. Donc, la focalisation change. Et c'est le pirate truculent qui est mis en avant.
Donc une parodie,
et qui n'est pas toujours, mais qui n'est pas forcément un héros, lui. Hein. Par exemple, il y a un très bon film de pirate qui est fait à cette époque-là sur un budget relativement modeste, qui est Barbe Noire le pirate de Raoul Walsh, qui focalise sur un personnage qui a réellement existé, qui est le fameux Capitaine Teach, qui était une véritable ordure, qui était un pirate au pire sens du terme. Et le film ne le cache pas. Et le film ne cache pas le couple d'amoureux est ailleurs. Hein. Donc lui, à la limite, c'est presque le méchant, mais le méchant qui devient le personnage principal.
Hein,
avec une espèce de tout ce qui était fétichisme et érotisation au départ devient détail décoratif de presque ironique ou de si vous voulez, hein. Par exemple le capitaine Teach, Barbe Noire, ça c'est un détail qui est pris de la réalité, orne sa grande barbe noire de petits nœuds de toutes les couleurs.
Oui, mais ça c'était quelque chose qui est rapporté par les historiens d'ailleurs, encore qu'il y ait très peu d'histoires directes des pirates, c'est beaucoup par témoignages indirects. Les pirates aimaient beaucoup se mettre en scène à bord, ils riaient beaucoup à bord. Et ils jouaient eux-mêmes des scènes de pirates à bord.
C'est possible. En tout cas, c'est l'image que donne le cinéma.
C'est ça, c'est ça.
Ils font un numéro.
C'est ça. Voilà. Avec cette sorte de mise en abîme, les pirates jouent
et
les pirates.
Et en général, etc. Ce sont des acteurs passablement cabotins, parfois génialement cabotins, qui jouent ce genre de rôle, que ce soit Charlton ou Robert Newton pour Barbe Noire le pirate.
Ça. Est-ce que la découverte de l'espace, cette nouvelle dimension de l'espace précisément, qui est le 2001, l'Odyssée de l'espace, etc. Est-ce que ça ne va pas faire une concurrence au film de pirates en montrant un nouvel élément, l'air, l'aéro satellitaire et cette nouvelle aventure de la fin du siècle.
Honnêtement, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que quand paraît 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est-à-dire en 1967, ou 65, je sais plus. Le film de pirates n'existe déjà pratiquement plus. Sauf, de temps en temps, une manifestation nostalgique, on refait un film comme jadis, etc.
C'est un peu ringard.
Mais il n'y en a pas beaucoup. Ça n'est pas une concurrence. Je crois que tout simplement que le film de pirates n'est plus d'actualité.
Alors,
à ce moment-là.
Il va redevenir d'actualité, Christian Viviani. Il va avoir un revival du film de pirates, mais sur un genre tout à fait nouveau, pas complètement nouveau, mais avec des ajouts.
Mais oui, parce que je crois qu'il n'est plus viable tout seul. Et puis l'imaginaire des enfants ou des adolescents ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, constitue l'essentiel du public cinématographique en ce moment.
Ah oui, tout film confondu.
Oui, les films qui vraiment les films qui sont faits pour faire de l'argent sont conçus pour ce public-là. Oui. Alors parfois il y en a de bons, hein, je dis pas le contraire, mais bon, il est évident que les grands succès de ces dernières années, c'est Les Pirates des Caraïbes, c'est Harry Potter, c'est des choses comme ça, qui sont parfois des films avec certaines qualités indéniables. Mais donc eux,
qui ont aussi cette
ont un imaginaire qui a été confronté à tellement de choses extraordinaires que ça ne les satisfait plus. Oui. Donc effectivement,
ils sont repus.
Ce qui est intéressant dans le phénomène Pirates des Caraïbes, qui est d'ailleurs resté sans progéniture. Hein. Il y a simplement la franchise Pirates des Caraïbes, la franchise Disney Pirates des Caraïbes, qui se décline, je crois, en 4 ou 5 épisodes maintenant. Mais il n'y a pas de films qui sont faits dans le style des Pirates des Caraïbes. Et la grande idée, c'est évidemment de marier tout le folklore du film de pirates que l'on a pu énumérer au cours de cette émission, avec des éléments complètement nouveaux qui sont le fantastique, le merveilleux, voire l'horreur.
Ce qui est très intéressant, c'est ce que ça nous dit de notre jeunesse et de notre temps. Et c'est finalement cela qui est intéressant dans le film de pirate, c'est que le film de pirate classique a besoin d'un adjuvant, de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui parle aux enfants. Et ce quelque chose, c'est précisément le fantastique et l'horreur. Est-ce que c'est pas précisément nouveau dans la société en général? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on va retrouver, qui est commun à Harry Potter d'ailleurs, hein, ce côté magique?
Ça n'est pas vraiment nouveau, parce que vous trouvez des choses horribles dans toutes les histoires qui sont destinées aux enfants. Les enfants ont toujours eu besoin des choses horribles pour apprendre, en fait.
À commencer par la comtesse de Ségur.
Voilà. Mais simplement, la barre est de plus en plus haute.
Oui.
Et
il faut voir de plus en plus.
Donc, il faut que ce soit de plus en plus horrible. Un des classiques de la littérature enfantine, mais qui a eu aussi quelques adaptations cinématographiques que l'on peut inclure dans le film de pirates, c'est évidemment L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, où il y a cette fascination de l'enfant pour la figure de Long John, le pirate à une jambe.
Ça aussi, c'était une caractéristique.
Qui est terrifiant, mais maintenant, ça ne suffit pas. La jambe unique, les gamins de maintenant n'auraient pas peur. Il faut véritablement qu'ils aient des visages qui ressemblent à des poulpes monstrueux ou des choses comme ça pour que ça leur fasse. Mais c'est la même peur qui est simplement montée d'un cran, quoi, deux ou trois. Même.
Christian Viviani, il y a enfin une série télévisée qui est arrivée avec Black Sails.
Oui, mais à ma grande honte, je n'en parlerai pas parce que je ne l'ai pas vu. Non pas par mépris, mais il se trouve que c'est comme ça. A priori, elle m'intéresse, mais je n'ai pas encore trouvé le temps de la regarder. Voilà.
Parce que ça prend beaucoup de temps. Je viens à votre secours. Ça prend énormément de temps pour travailler sur les séries.
Oui.
Alors, il y a aussi des choses qu'on voit pas, parce que on ne voit que cette dimension mythique du pirate, toujours dans les Caraïbes. Est-ce qu'il n'y a pas des pirates dans la mer de Chine? Est-ce qu'il n'y a pas des films asiatiques de pirates? Est-ce que ce style n'est pas exportable, facilement mondialisable, on dirait aujourd'hui?
Oui. Alors, probablement un des le plus grand pourvoyeur de films de pirates ou de films d'aventure maritime en Europe, c'est l'Italie.
Ah oui.
Plus maintenant, mais disons là aussi à peu. L'Italie a un modèle de film de genre qui suit très attentivement le modèle hollywoodien. Hein. Donc les grands genres italiens correspondent au moment des grands genres hollywoodiens.
Il y a un côté pratique
parce que beaucoup de films étaient tournés en Italie pour des raisons films américains étaient tournés en Italie pour des raisons financières, et donc on laissait des décors qu'il était pratique de réutiliser et voilà. Donc il y a des films, il y a pas mal de films d'aventure maritime italiens. D'autant que dans la littérature populaire italienne, vous aviez déjà une grande série de bouquins, le corsaire vert, le pirate rouge, la fille du corsaire vert, etc., ben oui. qui était écrit par un très célèbre auteur qui est toujours lu maintenant et qui connaît des adaptations télévisées, c'est Emilio Salgari. Oui.
Mais ce qui me frappe, Christian Viviani, c'est que les corsaires de Méditerranée, quoi, les pirates, ou quoi, je sais pas comment les appeler, qui travaillaient pour Alger, pour le baie d'Alger, c'est-à-dire les barbaresques, qui ont une histoire très très longue, très profonde en Méditerranée, ne sont pas portés à l'écran. Pratiquement pas.
Oui, effectivement, je pense, parce que c'est une histoire qui automatiquement amènerait le thème du trafic de chair humaine et de l'esclavage.
C'est le grand non-dit, il ne faut pas en parler, alors que c'était quand même...
On commence à en parler.
Oui, mais pas sous forme de film plaisant.
Mais à l'époque, il était vraiment impensable d'en parler. Je dirais après, la manière dont on... les esclaves, donc autant n'importe le vent, on voit que ils souffrent pas tant que ça.
Est-ce que les films de pirates ne sont pas liés toujours à des périodes d'émigration? Est-ce que c'est pas par définition à une période d'accélération de la circulation humaine?
Le film de pirates en général est une métaphore de l'émigration. Il va dans de nouvelles terres pour établir une nouvelle société sur de meilleures bases, mais qui sont en général les mêmes bases que la société traditionnelle, mais dépouillées de tout ce que la routine, la corruption, etc., a pu apporter et a pu cacher l'essentiel de ces valeurs. Mais on recommence à zéro, on en revient à cette idée du New Deal, mais les nouveaux horizons, les nouveaux rivages, c'est ça que ça signifie. Et effectivement, on a des personnages qui vont dans d'autres pays et qui établissent des sociétés dans d'autres pays.
Alors ma dernière question est un peu stupide, je vous prie de m'excuser, Christian Viviani. Est-ce que vous prédisez un avenir au film de pirates, ou est-ce qu'on ne serait pas au bout de quelque chose, d'un cycle?
Je vais vous faire une réponse qui ne concerne pas spécialement le film de pirates, en fait, mais qui concerne le film de genre en général. On entend extrêmement souvent que tel genre est en train de mourir. Je pense que les genres ne meurent jamais. Une fois qu'ils ont existé, qu'ils ont connu leur période de brillance intense, ils restent. Et moi, je les compare fréquemment aux couleurs qui s'offrent à la palette d'un peintre. C'est là.
Et ça ne
c'est là.
Pas.
On n'est pas obligé de l'utiliser tout le temps, mais on peut l'utiliser quand on en a besoin.
Merci beaucoup, Christian Viviani.
Merci à vous.
Matière à penser, Christian Viviani, Frédéric Changenet, Nino Lima, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous avec Frédéric Vance pour toute la semaine.